Marcus Wolf, le plus grand maître espion du XXe siècle, dit-on parfois. Celui qui, pendant toute la guerre froide, a dirigé les renseignements extérieurs de la Stasi, la puissante police secrète de l'Allemagne de l'Est, la RDA. Avec ses 3000 agents infiltrés à l'Ouest et son soutien au terrorisme international, Marcus Wolf fut pendant plus de 30 ans, pour les Occidentaux, l'un des espions les plus redoutés. Pendant toutes les années 80 encore, alors que la chute du mur est de l'ordre de l'impensable, l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, ne sait pas comment contrer les espions de la Stasi. Ils sont partout et semblent invincibles. Marcus Wolf tire les ficelles depuis sa citadelle, au dernier étage du sinistre bâtiment de la Stasi, Normannenstrasse, à Berlin-Est.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
Ce bâtiment hyper surveillé de Berlin-Est est garni d'un calicot qui proclame que les liens fraternels avec le peuple soviétique sont les sources du succès. Rien que de très logique, car avec ses 25 000 hommes, le service d'espionnage de l'Allemagne de l'Est est une succursale du KGB soviétique. Marcus Wolf est le stratège de l'infiltration d'agents communistes. Ses objectifs prioritaires, décrocher l'Allemagne de l'Ouest du monde occidental.
Marcus Wolf est d'autant plus puissant et insaisissable que pendant très longtemps à l'Ouest, on n'a aucune idée de ce à quoi il ressemble. On l'appelle l'homme sans visage. Jusqu'au jour où une taupe passée à l'Ouest le reconnaîtra sur une photo prise à son insu. Par sa fonction à la Stasi, Wolf incarne le régime de la RDA dans ce qu'il a de pire. Mais c'est très troublant. Cet agent zélé du socialisme réel tentera, après la chute du mur, de s'inventer une seconde vie. Invité par les télés du monde entier, il usera de tout son charme, et aussi de son art éprouvé de la manipulation, pour faire oublier ses crimes et continuer d'exister. Le voici par exemple, paradant en décembre 1989 dans les rues de Berlin, devant le micro de Martine Laroche-Joubert, qui semble assez perplexe.
Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, secouée par les règlements de compte, lui, le chef de la police secrète, se promène sans crainte apparente. Maintenant, il écrit aussi, comme John Le Carré, et il en est fier.
Vous savez, les services secrets ne sont liés qu'indirectement au changement actuel. Bien sûr, si la politique entre dans une période de détente, la tâche des services secrets change elle aussi.
Avec Marcus Wolf, nous découvrons aussi que non seulement les grands espions ne meurent pas, mais qu'ils peuvent renaître en démocrates venus du froid.
En apparence, il faut le dire, Marcus Wolf ne ressemble en rien au cliché de l'espion de la Stasi, brute épaisse ou exécutant borné. Marcus Wolf est beau, grand, élégant, cultivé. Une jeunesse romantique derrière lui. Il s'exprime bien et il écrit des livres. Il a tout pour séduire. Mais qui est vraiment Marcus Wolf ? Est-ce possible que cet homme si raffiné se soit simplement égaré pendant plus de 30 ans à la tête des services secrets de la RDA ? Un des états les plus répressifs du bloc communiste, George Orwell aurait pu s'en inspirer pour son 1984. L'histoire de Marcus Wolf, on va le voir, épouse à l'extrême les errements et les contradictions du XXe siècle. Si elle se terminera, fracassée par la chute du communisme, elle avait commencé dans l'entre-deux-guerres avec un certain panache, celui de l'antinazisme. Né en 1923 dans ce qui est alors la République de Weimar, Marcus Wolf est issu d'une famille juive intellectuelle. Son père, Friedrich Wolf, est médecin et écrivain communiste, auteur réputé de pièces de théâtre engagées. Mais en 1933, les Wolfs doivent quitter précipitamment leur belle maison de Stuttgart. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Un mois plus tard, l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, marque le coup d'envoi de la chasse aux communistes. La famille Wolf, avec le petit Markus, 10 ans, réussit à fuir l'Allemagne, d'abord en Suisse et en France, puis finalement en Union soviétique. C'est dans la Russie de Staline que Markus va grandir. Bercé par les récits des héros du prolétariat international, mais sourd, semble-t-il, au fracas des grandes purges. À 18 ans, sans qu'on lui demande vraiment son avis, ce jeune marxiste convaincu entre à l'école du Comintern qui forme les futurs cadres communistes du monde entier, où il s'initie à la clandestinité. Mais en 1943, le Comintern étant dissous par Staline, Markus, toujours sur ordre, devient journaliste à Moscou. En 1945, dans le sillage des troupes soviétiques, il rentre dans son pays natal où il assiste à la défaite d'Hitler.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. Dans une salle comble, le procureur lit l'acte d'accusation. 400 journalistes sont venus du monde entier.
Markus Wolf, 22 ans, est l'un de ces 400 journalistes qui, à Nuremberg, découvrent avec effroi l'étendue des crimes nazis. Le voici à la radio Berliner Rundfunk, qui commente avec passion le verdict le 1er octobre 1946. Un document rare.
Le tribunal mondial a rendu son verdict. Qui peut être encore prêt aujourd'hui à renoncer à sa liberté et à suivre sans réfléchir les ordres d'aventuriers simplement parce qu'ils se disent Führer? Qui, après ce procès, peut encore se livrer à voler la liberté d'autres personnes et d'autres peuples?
C'était un commentaire de M. Markus Wolf de la radio de Berlin.
Un éloge de la liberté bien troublant de la part de celui qui bientôt deviendra un chef de la Stasi. Pendant très longtemps, la petite photo de son accréditation au procès de Nuremberg sera la seule que les Occidentaux posséderont de Markus Wolf. Pour l'heure, le jeune journaliste, qui a l'avantage d'être à la fois soviétique et allemand, est appelé à d'autres fonctions. Il est vite repéré en 1949, quand est créée la RDA.
À Berlin, l'Assemblée nationale de l'État allemand de l'Est vient de procéder à l'élection du président de la nouvelle République progressiste en la personne de M. Wilhelm Pieck, l'un des leaders du Parti communiste. La nouvelle de l'élection du nouveau président a déchaîné l'enthousiasme des milices et des jeunesses populaires qui ont, avec torches et oriflamme, manifesté à cette occasion leur attachement à l'URSS en même temps qu'aux meilleures traditions de la démocratie en marche.
Cet État socialiste tout neuf a besoin de cadres tout neufs, talentueux et dévoués, comme Markus Wolf, qui à 28 ans seulement, se voit confier la direction du premier service de renseignement extérieur de la RDA. Aurait-il pu refuser? Une question qu'après la chute du mur, on lui posera souvent.
Il ne m'est même pas venu à l'esprit de refuser. Je l'ai même vu comme une mission politique de la direction du parti. Pour moi, à l'époque, ce n'était pas une partie de l'appareil répressif. C'était une mission de reconnaissance comme dans les vieux films soviétiques. Peut-être aussi quelque chose de romantique, d'important et d'honorable.
Wolf Voilà comment Markus Wolf, à 28 ans, est entré en espionnage, comme d'autres entrent en religion. L'habit qu'il endosse alors et qu'il ne quittera plus pendant 35 ans prend vite les couleurs sombres et tristes du Berlin-Est des années 50.
Nous voilà à Alexanderplatz. Alexanderplatz était jadis l'une des plus grandes places de Berlin. Aujourd'hui, elle est complètement anéantie, avec dans le fond, comme un fantôme de pierre, la tour de l'ancien hôtel de ville qui se dresse dans l'ombre, avec des feux rouges clignotants qui signalent son existence aux avions survolant la ville. Nous sommes là depuis à peu près 10 minutes à Alexanderplatz, et au milieu de cette foule silencieuse et terne, une chose nous a déjà frappé, il y a environ un policier pour 10 promeneurs. Des policiers ou des policières d'ailleurs en uniforme noir, et qui battent le pavé, passent entre les groupes, écoutent et surveillent.
L'engagement de Markus Wolf n'est pas ébranlé quand en 1953, la révolte des ouvriers est-allemands contre la hausse des cadences et pour des élections libres est écrasée dans le sang par les chars soviétiques et suivie de dizaines de milliers d'arrestations.
Dans la zone soviétique de Berlin, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers exaspérés par les décisions du gouvernement communiste d'augmenter sans contrepartie les normes de travail se sont soudain soulevés. Des immeubles de l'administration soviétique ont été incendiés. Le drapeau rouge qui flottait sur la porte de Brandebourg était arraché et remplacé par les couleurs allemandes. Ce geste déclenchait alors l'intervention des forces russes et les chars à la suite des voitures de police ouvraient le feu. Les informations soviétiques parlent de 18 morts et de 200 blessés. Ces manifestations de Berlin-Est ont eu des échos dans toute la zone soviétique où d'autres manifestations du même genre se sont déroulées. Une Allemagne orientale imprévue se découvre.
Markus Wolf ne bougera pas non plus quand des concitoyens seront abattus en tentant de fuir à l'ouest. Pendant toute la guerre froide, le principal terrain d'action de Markus Wolf pour le compte de la RDA, mais aussi du KGB soviétique, sera l'Allemagne de l'Ouest, le pays à la fois frère et ennemi. Pour pénétrer au cœur de ces institutions, le maître espion va mettre sur pied une ingénieuse et coûteuse organisation. Surveillance téléphonique, fichage très précis des cibles, mais surtout, emploi sur le terrain de milliers d'agents, les chiffres varient de 3 à 6 000, infiltrés à tous les niveaux de responsabilité. Les résultats seront spectaculaires. Parmi les plus grandes réussites de Markus Wolf, l'agent Rainer Rupp, nom de code Topaz, qui ne sera démasqué et arrêté qu'en 1993.
Rainer Rupp, alias Topaz, 47 ans, faisait carrière à l'OTAN dans une section économique de la direction des affaires politiques. Pas directement militaire donc, mais cela ne l'a pas empêché, depuis qu'il a été activé en 79, de donner à l'Allemagne de l'Est environ 10 000 documents hautement stratégiques, à raison d'une livraison toutes les 6 à 10 semaines.
Markus Wolf avait recruté Rainer Rupp en 1968, quand celui-ci n'était qu'étudiant. Formé secrètement à l'espionnage, Rupp n'est envoyé que 10 ans après se faire embaucher par l'OTAN à Bruxelles. Et oui, Markus Wolf sait investir à long terme. Et les résultats seront à la hauteur de l'attente, puisque Rupp, alias Topaz, révélera la localisation précise des missiles de l'OTAN déployés en Europe de l'Ouest. Autre recrue de choix de Markus Wolf, Gabriel Gast. Cette jeune ouest-allemande idéaliste accepte de collaborer avec la Stasi, d'abord par amour, ensuite par conviction idéologique. Cette brillante chef analyste des services secrets ouest-allemands travaillera en réalité pendant 16 ans pour Markus Wolf. Tous les 15 jours, l'agent double a rendez-vous dans les toilettes pour dames d'un grand magasin, avec sa correspondante de la Stasi, Cordula. Là, les deux femmes ouvrent leur sac à main et s'échangent leur spray de déodorant. Celui de Gabriel, bien sûr, contient des documents microfilmés. Par sécurité, le contenu peut s'autodétruire automatiquement en cas d'ouverture inopinée. On se croirait dans Mission Impossible.
Cordula n'a plus qu'à aller placer le flacon dans un train, en partance pour la RDA, sous le lavabo des toilettes. Le précieux déodorant sera récupéré à la première gare de l'autre côté de la frontière. Pour cette espionne d'exception, Markus Wolf, fin psychologue, crée une relation privilégiée en apparence d'égal à égal. En 1975, par exemple, il l'invite quelques jours en vacances sur une île dans l'Adriatique, avec ses gardes du corps qui ne le lâchent pas d'une semelle. Entre deux baignades, les deux espions discutent doctement de la situation internationale, et Gabriel est flatté. Mais en 1990, quand elle sera arrêtée et condamnée à des années de prison, elle en voudra beaucoup à son chef de l'avoir lâchée, elle et ses camarades. Elle ne manquera pas d'ailleurs de lui dire plus tard.
Si tu estimais que ton travail n'avait plus de sens, quel sens alors avait encore le nôtre sur le front ? Qu'est-ce qui justifiait le risque que nous avons pris là-dedans ?
Mais le plus grand coup de Markus Wolf, ce sera bien sûr Günther Guillaume, l'agent de la Stasi qui, en 1973, deviendra l'assistant du chancelier ouest-allemand Willy Brandt.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger.
Markus Wolf, le chef de la Stasi, les services secrets de l'Allemagne de l'Est, réalise son coup le plus extraordinaire en 1973, quand un de ses agents, infiltré à l'Ouest depuis 1956, réussit l'impensable. Markus Wolf excelle dans l'art de la manipulation, comme infiltrer les mouvements pacifistes, profiter de la liberté de la presse à l'Ouest pour donner à des journalistes des informations sur le passé d'hommes politiques, par exemple. Verser des pots de vin à des députés pour influencer leur vote, sans même qu'ils se rendent compte qu'ils sont payés par la Stasi. Selon la formule chère aux espions, la fin justifie les moyens, Markus Wolf va user à grande échelle aussi de l'espionnage par la séduction. À l'école de la Stasi, les jeunes agents, surnommés Roméo, reçoivent dans ce domaine une formation très poussée, quasi scientifique. Big Brother n'est pas loin.
Une guerre ne se joue pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi sur le terrain de la psychologie humaine. Pour cela, il vous faut réussir à contrôler la pensée de l'ennemi. Si on souhaite manipuler la volonté d'une cible de sexe féminin, ça exige de passer par l'intimité du rapport sexuel tout en gardant la tête froide. Supposons que vous êtes dans un café et que vous êtes assis face à une femme. Comment est-ce que vous nouez le contact ?
On passe par le regard.
Exact. Maintenez le contact visuel jusqu'à ce que ce soit elle qui cède. L'expérience démontre que quand une femme dans cette situation baisse les yeux, c'est signe de soumission. Une fois ce premier contact établi, le mieux est de vous éclipser, de manière à laisser votre cible sur sa fin.
Une méthode efficace qui fera beaucoup de dégâts. L'exemple le plus tristement célèbre est celui de Leonore Heinz. Secrétaire dans un ministère à Bonn, une capitale ennuyeuse dont l'écrivain John le Carré dira qu'elle était deux fois plus grande et deux fois moins vivante que le cimetière de Chicago. Dans ce décor donc banal à pleurer, Leonore Heinz, en 1958, est miraculeusement draguée par un certain Zütterlin. Deux ans plus tard, le couple se marie. Zütterlin, animé de sentiments pseudo-pacifistes, réussit à convaincre son épouse de lui transmettre des documents importants pour sauver la paix entre l'Est et l'Ouest. Mais en 1967, le couple d'espions est arrêté. Et quand Léonore apprend que son mari l'avait épousée, non par amour, mais sur ordre des services secrets, elle se pend dans sa cellule. Plus tard, Markus Wolf jurera n'avoir jamais commandité de meurtre, sans beaucoup convaincre. Mais il est sans aucun doute responsable de nombreux suicides.
Espion, une histoire vraie.
Nachts geh ich dahin. Ich bin allein. Und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum. Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum? Ich wollt glücklich sein, doch du ließ mich allein. Wann kommst du zurück? Sag, wann?
wäre schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
Le plus grand coup de Marcus Wolf, c'est bien sûr Günther Guillaume. Cet agent infiltré en RFA qui réussit l'impensable en 1973, accéder au plus haut niveau de l'État en devenant le secrétaire personnel du chancelier Willy Brandt. Mais l'espion est démasqué et arrêté le 25 avril 1974. Le scandale est énorme en Allemagne de l'Ouest.
L'affaire Guillaume en Allemagne fédérale pourrait avoir de graves conséquences sur l'avenir du chancelier Willy Brandt. Des membres de l'opposition réclament sa démission. Que l'on ait découvert un espion de l'Allemagne de l'Est, Günther Guillaume, dans l'entourage immédiat de M. Willy Brandt, va en tout état de cause rafraîchir les relations entre Bonn et Pankow et ralentir la politique orientale de M. Brandt. D'ailleurs, la rencontre prévue aujourd'hui entre les représentants des deux républiques d'Allemagne a été annulée.
Et deux semaines plus tard, le chancelier démissionne. Une mauvaise nouvelle en réalité pour la RDA et en coulisses pour l'Union soviétique, puisque cette démission met fin à la politique d'ouverture à l'Est menée par Willy Brandt. Marcus Wolf parle même d'un but marqué contre son camp. Il n'empêche, l'affaire Guillaume rappelle au monde entier la toute-puissance des services secrets est-allemands et de son chef, le mystérieux homme sans visage. Mais le 5 mars 1979, coup de théâtre. Le chef des services secrets de la RDA est découvert, titre en une, le magazine ouest-allemand Der Spiegel, avec une photo en noir et blanc de Marcus Wolf, photographié au téléobjectif dans une rue de Stockholm lors d'un séjour incognito. C'est Werner Stiller, un espion est-allemand passé à l'ouest 2 mois plus tôt, qui, en le reconnaissant sur la photo, permet son identification. Un sale coup pour Marcus Wolf. Et quand l'année suivante, un autre agent est-allemand est arrêté, alors qu'il s'apprête à faire défection, la RDA est sans pitié. Le traître est condamné à mort et exécuté d'une balle dans la tête. À bon entendeur. Pour déstabiliser la RFA et l'Ouest en général, Marcus Wolf n'hésite pas à soutenir le terrorisme international. 5 avril 1985.
Pour la seconde fois cette semaine, des Américains ont été victimes d'une attaque terroriste en Europe. Notre correspondant sur place.
Il ne reste plus grand-chose de la discothèque de Berlin-Ouest, dévastée par une bombe alors que le lieu était rempli de plusieurs centaines de personnes. Plus de 150 ont été blessés, dont 70 militaires américains. Un soldat américain et une jeune femme turque ont été tués. Aujourd'hui, l'ambassadeur des États-Unis s'est rendu sur les lieux et a déclaré
« Un acte incroyablement lâche, un acte incroyablement barbare. À ce stade, on peut soupçonner un attentat financé par un État. » At this stage, we'll only talk about state-sponsored terrorism. Don Kladstrom, ABC News, West Berlin.
Les Américains accuseront la Libye d'être à l'origine de l'attentat. L'ouverture des années plus tard des archives de la Stasi confirmera cette thèse. Elle révélera aussi que les services de Marcus Wolf, juste avant l'attentat, étaient parfaitement au courant du complot, mais n'ont rien fait pour l'arrêter. Un exemple des liens souvent plus qu'ambigus entre RDA et terrorisme international. Marcus Wolf le reconnaîtra plus tard.
Nous avons formé des militants palestiniens et arabes, y compris dans nos écoles et nos camps d'entraînement ici en RDA.
De la même manière, le terroriste Carlos, recherché pour de multiples attentats meurtriers, séjourne régulièrement à Berlin-Est sans être inquiété.
On dit de lui qu'il est le terroriste le plus redouté et le plus recherché dans le monde. On dit aussi qu'il serait à Berlin-Est, mais qui peut vraiment savoir où il est ?
C'est vrai. Carlos a passé quelques jours au grand hôtel de Berlin-Est. L'homme n'en faisait qu'à sa tête. Il n'hésitait pas, au grand dam du service de sécurité, à faire les 400 coups au bar de l'hôtel. En l'autorisant à séjourner chez nous, il s'agissait d'une sorte de surveillance pour protéger la RDA du terrorisme.
De nombreuses archives compromettantes de la Stasi seront détruites après la chute du mur. Il n'empêche, les preuves ne manquent pas du soutien apporté par Markus Wolf également à la fraction Armée Rouge, l'organisation terroriste d'extrême gauche, surnommée en France la bande Abadère. En 1980, la Stasi propose aux terroristes alors en cavale de se réfugier en RDA. Après un recyclage idéologique du genre « vous aviez raison de vous battre, mais vos moyens étaient mauvais », on leur donne de faux papiers est-allemands. Et les ex-terroristes, pourvus d'un logement et d'un travail, vont se métamorphoser en bons petits citoyens est-allemands. Bien à l'abri derrière le rideau de fer, du moins le croient-ils.
Je n'arrive pas à y croire. J'en ai mal au ventre. Je n'arrive pas à y croire.
Ça fait 3 ans et demi que j'attendais ce moment-là.
On va aller boire une bière à l'ouest et après, on retourne à la maison. Et ça maintenant, on pourra le faire souvent.
On va aller voir des amis qui nous attendent à minuit. On veut simplement aller de l'autre côté, c'est comme un rêve. Et puis on retourne à l'est. C'est dingue, c'est de la folie.
28 ans, c'est la stunde. Je suis très glücklich.
Lorsque le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989, cela fait 3 ans déjà que Markus Wolf a démissionné de la Stasi. Par désaccord avec la politique de la RDA, prétendra-t-il. Et en soutien à la perestroïka de Gorbatchev, le réformateur à la tête désormais de l'Union soviétique. Ce qui n'empêche pas Wolf de conserver un bureau à la Stasi. Quelques jours avant la chute du mur, le 4 novembre, alors que rien n'est encore gagné, les Allemands de l'Est manifestent en masse à Alexanderplatz à Berlin. Markus Wolf, qui se voit alors comme un recours possible à un Gorbatchev allemand, prend la parole devant la foule pour donner une nouvelle chance au Parti communiste.
Spricht zu Ihnen Markus Wolf.
Ce parti peut jouer un rôle très important dans la nouvelle étape à laquelle notre société est confrontée. Ma contribution va bientôt s'arrêter car je ne peux pas et ne souhaite pas cacher que j'ai été général à la Stasi pendant 33 ans. Et je confesse ma responsabilité dans cette activité jusqu'à ma démission de ce service il y a 3 ans.
Ce discours ne manque pas de courage, mais il est trop tard. Bärbel Bolley, une opposante de longue date au régime, qui se trouve à ce moment-là parmi les manifestants, se souviendra plus tard de ce discours de Markus Wolf.
Quand j'ai vu que ses mains tremblaient, parce que le peuple le huait, j'ai dit à l'ami qui était à côté de moi, « Nous pouvons y aller maintenant, c'est bon. La révolution est irréversible.
Et après la chute du mur, la Stasi elle-même, qui depuis 40 ans fait régner la terreur et la délation, n'échappe pas à la colère du peuple. Le 15 janvier 1990, le siège à la Normannenstrasse est envahi par la foule au cri « La Stasi dehors ».
Face à un gouvernement un peu sourd et guère pressé de démanteler la Stasi, la foule est passée de la parole à l'acte. Des dizaines de milliers de manifestants ont convergé ce soir vers l'immeuble berlinois de la police secrète. Le bâtiment a alors été méticuleusement mis à sac. Machines à écrire, meubles, dossiers, rien n'a résisté à la vindicte populaire. Des centaines de fiches compulsant des années de surveillance de toute une population se sont envolées.
Quelques mois plus tard, pour éviter la prison, Markus Wolf s'enfuit avec sa femme en Union soviétique. Mais en 1991, il n'a pas le choix. Il rentre en Allemagne où il se constitue prisonnier. Incarcéré quelques jours, libéré sous caution, il peut finalement regagner son confortable appartement de fonction à Berlin. Le fameux maître espion, qui a abandonné toute velléité politique, se met à écrire des livres de souvenirs, un livre de recettes de cuisine aussi, pour gagner sa vie et pour se justifier.
Je pense ne rien avoir à me reprocher, mais j'assume quand même la responsabilité d'une politique de sécurité abusive. Chaque citoyen qui exprimait une opinion différente de celle du pouvoir subissait des représailles. Évidemment, je n'étais pas toujours d'accord avec cette politique, mais vu ma position, je suis obligé aujourd'hui de l'assumer.
In dieser Position muss ich schon dafür auch Verantwortung haben.
Et c'est la conscience tranquille qu'il affronte son procès en 1993.
Un petit air de festival de Cannes au tribunal de Düsseldorf. L'acteur a beau avoir déjà beaucoup de nez, c'est encore une star, Markus Wolf, 70 ans, profession fonctionnaire à la retraite. Mais derrière l'image rassurante, caché derrière des lunettes noires, un autre Markus Wolf, alias l'homme sans visage, alias l'espion venu du froid, alias le beau Micha pour les dames. Alors aujourd'hui, l'Allemagne accuse le maître espion de haute trahison. Un procès politique, rétorque Wolf, un procès illégal. Argument, seuls les agents de l'Est sont poursuivis et condamnés, quand leurs collègues occidentaux coulent des jours tranquilles. Résultat, deux poids, deux mesures, la Cour constitutionnelle devra trancher.
Markus Wolf sera condamné à 6 ans de prison. Mais il fait appel et en 1995, comme il l'escomptait...
Markus Wolf, l'ancien chef du renseignement est-allemand et plusieurs autres espions seront libérés. C'est une décision de la Cour suprême allemande. Les espions ouest-allemands ne sont pas poursuivis. La Cour estime donc que les espions est-allemands n'ont pas à l'être.
De nombreux Allemands de l'Est sont déçus. Ils espéraient voir condamner ceux qui les ont surveillés et harcelés pendant 40 ans. Par ailleurs, 20 gardes frontières ayant abattu des Allemands de l'Est fugitifs ont été condamnés, mais à des peines légères.
Les employés des services secrets de la RDA ne doivent pas être accusés ni être rendus responsables. Ils ont fait leur devoir, ils travaillaient pour l'appareil d'un État afin d'assurer la doctrine de sécurité. La RDA était un État de droit, dit-il, internationalement reconnu.
Le 9 novembre 2006, Markus Wolf meurt dans son sommeil chez lui à Berlin, 17 ans jour pour jour après la chute du mur. Le mystérieux maître espion qui faisait trembler l'Ouest, l'homme sans visage de la Stasi qui se rêvait écrivain, n'a peut-être toujours été finalement qu'un bureaucrate aux ordres. « Je faisais mon métier », disait-il. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan. Réalisation Hélène Bizio, assistée d'Adèle Kaito. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Patrick Henry. Une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr.